Africa.
Le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Et nous débattrons ce soir des chefs d'État, des fils des chefs d'État qui occupent des postes nominatifs. Mais avant, voici votre rendez-vous décryptage sur le rassemblement des policiers en colère en France.
Décryptage dans le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Brice Arsène Mankou, bonjour.
Bonjour madame.
Enseignant et chercheur franco-congolais en sciences sociales et juridiques, professeur à Sciences Po Reims dans le nord-est de la France, des responsables politiques français de gauche comme de droite ont été aperçus au rassemblement des syndicats de police qui a eu lieu mercredi devant l'Assemblée nationale à Paris. Tous avaient-ils des raisons d'être présents à cette manifestation?
Oui, écoutez madame, une telle manifestation qui justement rend hommage à nos policiers qui pendant un an ont été confrontés au terrorisme et à la crise des gilets jaunes méritait effectivement que tout citoyen puisse s'émouvoir sur le sort de nos policiers qui sont souvent pris à partie lors des manifestations. Mais seulement je voudrais moi relever un peu une confusion du genre parce que nous avons vu lors de ces manifestations la présence quand même du ministre de l'Intérieur. Ça pose question parce que le ministre de l'Intérieur, en tant que garant de la sécurité de tous les Français sur toute l'étendue du territoire national, n'avait vraiment pas sa place aux côtés des policiers dans la mesure où il signait par là, par cet acte-là, le fait simplement que sa politique sécuritaire a été inefficace et n'a pas produit de fruits.
Qu'est-ce qui, d'après vous, a poussé Gérald Darmanin à se rendre à cette manifestation alors que les organisateurs eux-mêmes avaient appelé à un rassemblement sans récupération politique?
Nous sommes à 10 mois des présidentielles. 10 mois des présidentielles. Est-ce que c'est une tactique, une stratégie, un calcul politicien de la part du ministre de l'Intérieur? On peut se poser effectivement cette question de savoir, aux côtés du numéro 2 du Front National, on sait très bien que l'idée ou le dénominateur commun de ce parti, c'est la haine de l'étranger, et venir manifester aux côtés de la deuxième personnalité du Rassemblement national, et relève certainement d'une stratégie, d'une tactique, mais c'est à M. Darmanin, en tant que ministre de l'Intérieur, de clarifier cette position.
Est-ce qu'il ne s'agissait pas aussi de ne pas laisser la main à l'extrême droite, justement?
Justement, quand on incarne l'État, on incarne l'État, on incarne l'ordre en tant que ministre de l'Intérieur. Notre place en tant que ministre de l'Intérieur, c'est d'avoir des résultats sur le plan de la sécurité. Et quand on se prévoit, quand on va à des manifestations de ce type-là, quel message on veut donner justement à tous ceux qui considèrent que le Front National, par exemple, instrumentalise la haine? Et on sait très bien aussi que dans la République, notamment dans l'esprit des lois, Montesquieu a bien séparé les pouvoirs. On en a trois. L'exécutif est à sa place, le législatif par rapport aux lois est également à sa place, et le judiciaire est là pour garantir ou conduire cette politique pénale qui est fondée sur la justice.
Quelles seront les conséquences de cette participation à cette manifestation?
Cette manifestation, c'est que demain le Rassemblement national peut dire que les positions des uns des autres, notamment du ministre de l'Intérieur, qui manifeste à leur côté, sont des positions qui aujourd'hui ne sont plus diamétralement opposées, alors que l'un incarne l'État, la sécurité, l'ordre, et l'autre, qui est le parti, le Rassemblement national, par la haine qui distille, ne peut pas être un parti qui garantisse cette sécurité dont on a besoin, cette justice dont on a besoin. L'ordre, c'est le respect des droits de tous. Et on sait aussi que ce droit de tous-là passe par une police qui a des moyens, une police dont on doit donner non seulement des moyens régaliens pour faire régner l'ordre, mais aussi une police qui permette aujourd'hui de rassurer et de nous permettre de vivre en sécurité en France.
Un responsable syndical a déclaré lors de ce rassemblement que le problème de la police, c'est la justice. De tels propos ne risquent-ils pas de créer une division, voire un véritable clash entre policiers et magistrats?
s'agit pas en fait d'opposer les forces de l'ordre à la justice, parce qu'on sait très bien que les rôles et les missions sont répartis. Les forces de l'ordre, dans un état de droit, sont là pour assurer la sécurité physique des personnes et des biens, permettre la circulation des personnes dans un climat pacifique. Et le rôle de la justice, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est à travers leur ministère de la justice, c'est de conduire une politique pénale qui puisse produire des résultats en cohérence avec l'esprit même que l'on se fait de la justice. Alors, il s'agit effectivement de faire en sorte que dans cette confusion de genre dont je parlais tout à l'heure avec le ministère de l'Intérieur, etc., de clarifier les rôles de tout un chacun. En démocratie, on a besoin d'une police forte et qui fasse régner l'ordre, y compris dans les zones de non-droit. Je dis bien dans les zones de non-droit. Et la justice est là, dans un état de droit, pour nous assurer que personne n'est au-dessus de la loi. Nous avons déjà eu dans ce pays une réforme pénale qui a produit ses effets. Faisons donc confiance à notre justice, puisqu'elle est le rempart justement des plus faibles, qui sont souvent exposés à ces actes de violence, qui sont souvent les premières victimes, c'est souvent les familles modestes.
La police semble avoir retiré sa confiance à la justice.
Mais retenez, madame, que chaque fois que tout citoyen n'a plus confiance à la justice, eh bien c'est la mort de la démocratie. Et donc aux policiers aussi, je voudrais dire la chose suivante. Vous êtes, par vos fonctions, des auxiliaires de la justice. Vous aidez par les fonctions de maintien d'ordre à aider à la manifestation de cette justice. Eh bien, vous avez intérêt à collaborer, à travailler en étroite collaboration. Puisque sans justice, sans ordre, on ne peut pas aller vers un état de droit.
Brice Arsène Mankou, merci beaucoup.
Merci, madame.
Enseignant et chercheur franco-congolais en sciences sociales et juridiques, et également professeur à Sciences Po Reims, dans le nord-est de la France.
Africa. Le grand rendez-vous sur Africa Radio.
L'entrée au gouvernement de Christelle Sassou Nguesso comme ministre de la coopération fait débat et nous allons en parler ce soir avec Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina à Brazzaville. Monsieur Ebina, bonsoir. Allô, monsieur Ebina?
Et oui, nous, bonsoir.
Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, maître Emmanuel Sim.
Oui, bonsoir madame, je suis bien en ligne et je suis heureux de votre invitation. Bonsoir à vos auditeurs.
Merci à vous d'être la vice-présidente du MRC, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, de l'opposant Maurice Kamto. Et nous avons également en ligne de Dakar au Sénégal, Dr Abdoulaziz Mbodji. Monsieur Mbodji, bonsoir.
Bonsoir madame.
Docteur en droit public.
Plaisir d'être avec vous.
Merci, plaisir partagé. Docteur en droit public et constitutionnaliste. Vous êtes également docteur Mbodji, maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bambé au Sénégal. La nomination de Denis Christelle Sassou au gouvernement du Premier ministre Anatole Kolinet Makosso a donc suscité, monsieur Ebina, diverses critiques dans votre pays et toutes sortes de réactions. Mais le porte-parole du gouvernement, Thierry Moungala, a défendu la nomination de ce dernier au ministère nouvellement créé de la coopération internationale et de la promotion du partenariat public-privé, en estimant qu'il a un bon parcours professionnel qui parle pour lui et qu'il est à la tête d'une fondation qui est très active au niveau social au Congo. Que pensez-vous de ces arguments?
Mais déjà, je tiens à préciser que le débat...
Allô.
À mesure où, vous savez, sur le plan international, il y a des dossiers qui accusent le nouveau ministre comme étant quelqu'un qui a détourné des fonds publics. Et ce qui donc entache un petit peu, si vous voulez, l'évolution d'un travail politique ou d'un travail au service de la population. Donc il y a un problème d'image. Donc nous, à notre niveau, ce que nous demandons simplement qu'il y ait évidemment une transparence à ce sujet-là, que les dossiers soient clairs. Mais à la fin, vous voyez, lorsque vous voyez les Congolais, au niveau du Congo-Brazzaville, il y a tellement de pauvreté, il y a tellement de situations précaires pour la situation des retraités, la situation des jeunes, la situation de l'emploi, que le Congolais lambda ne se pose pas la question. Le Congolais lambda se demande de savoir est-ce que ces nominations vont changer quelque chose dans leur vie, dans leur quotidien, ou si encore une fois cette façon de voir. Vous savez, en Afrique, on a l'impression qu'il y a comme une dette morale au niveau des populations d'autoriser à ce que les enfants de présidents prennent la tête de certains États. Mais dans le fond, ça ne change pas grand-chose, ça ne fait que les appauvrir. Et pour nous, on considère simplement que ça ne changera pas parce que depuis de longues années, la gestion familiale n'a pas changé grand-chose au Congo-Brazzaville.
Donc, pour vous, vous estimez que, étant sur le coup de poursuite, il n'aurait pas dû être nommé ?
Mais écoutez, ça dépend à qui, ça gêne qui, parce que vous savez, en matière de transparence, en matière d'équité ou bien de justice, pour avoir une bonne image de gestion, il faut être intègre.
La question était davantage de savoir, monsieur Bina, qu'est-ce qui vous dérange dans cette nomination? Est-ce que c'est parce qu'il s'appelle Christelle Sassou, donc fils du président Sassou, ou c'est parce qu'il fait l'objet de ce dont vous avez parlé à l'instant, c'est-à-dire ses poursuites?
Mon problème, ce n'est pas qu'il s'appelle Sassou Nguesso. Mon problème, c'est que devant la population congolaise qui vit dans la misère, il est accusé de détournement de fonds publics. C'est pas un problème.
Mais il n'est pas condamné, il est présumé. Il n'est pas condamné.
La présomption d'innocence, écoutez, il est présumé. Mais justement, il faut donc éclaircir ce côté d'être présumé de ça. Ce sont des accusations graves. Ce sont des plaintes qui existent. Et par rapport à ces plaintes-là, nous voulons qu'il y ait d'abord éclaircissement à ce sujet-là.
Donc vous estimez qu'il aurait dû...
Avant d'incarner l'État.
Voilà, il aurait dû finir avec ce dossier avant éventuellement d'entrer au gouvernement, avant toute nomination.
Mais écoutez, tout à fait. Lorsqu'on incarne l'État, lorsqu'on représente l'État, il faut être propre. Il ne faut pas être accusé de détournement de fonds publics. Donc,
merci.
Dans le fond, ce n'est pas un problème de personne. C'est un problème parce qu'il y a des accusations. Et ces accusations entachent le travail qui doit être fait parce que les populations se sont trahies. Écoutez, si vous avez des gens qui détournent des fonds publics et qui viennent après pour défendre ces fonds-là, c'est paradoxal.
Merci, monsieur Bina. Oui, Maître Sim, est-ce que cette nomination vous pose problème ?
Oui, allô ?
Oui, Maître Sim, que pensez-vous de cette nomination du fils Sassou ?
Écoutez, madame, le fils de Sassou est un Congolais, il me semble. C'est un citoyen congolais. Et je suppose qu'a priori, il a le droit, comme tout Congolais, comme tout citoyen de ce pays, d'être nommé à une fonction ministérielle et même d'être élu président de la République. A priori, ça ne me pose pas de problème. Maintenant, les questions qui se posent, et les vraies questions, c'est de savoir est-ce que il est nommé en vertu de son nom, de son patronyme, ou il est nommé en vertu de ses compétences. C'est ça la vraie question.
Le gouvernement avance l'argument du deuxième. Pour ses compétences.
Alors, si c'est pour ses compétences, eh bien, les nominations au poste de ministre sont des nominations ad noctum. C'est des faits de prince. Le chef de l'État nomme comme ministre celui qu'il veut nommer, même si la personne n'est pas compétente. Par contre, si le fils de Sassou Nguesso a contre lui des présomptions de prévarication de biens publics, eh bien, là, ça me pose une question éthique pour lui. Parce que c'est vrai, il est présumé innocent. Je suis avocat, donc je sais de quoi on parle quand on parle de présomption d'innocence. Mais quand même, pour des postes politiques, lorsque il pèse sur nous des présomptions fortes de détournement ou de prévarication, eh bien, il est préférable de répondre d'abord à ces questions avant d'accepter une nomination à un poste ministériel.
D'accord. Il aurait dû décliner cette offre de nomination pour se consacrer entièrement à sa défense dans ce dossier.
À sa défense, oui. Je pense que le minimum, parce que un ministre est nommé par un chef de l'État, mais il doit incarner la confiance du peuple envers lui.
Merci.
Est-ce que ce ministre-là a la confiance du peuple dès lors qu'il y a des soupçons, même si je précise encore qu'il est présumé innocent, est-ce qu'il incarne la confiance des Congolais aujourd'hui dans leur entièreté? La question est là, je pense que ce n'est pas le cas. Et quand j'écoute mon prédécesseur qui vous dit, non, ce monsieur contre lui des griefs, il faudrait qu'il en réponde, je pense oui, il faudrait qu'il en réponde d'abord avant d'assumer une fonction aussi importante que celle à laquelle il a été appelé.
Merci, Maître Sim. Docteur Mbodji, vous partagez cette analyse ?
Merci beaucoup, madame. Bon, la question est extrêmement pertinente. Je ne sais pas est-ce que je vais dire que je partage l'analyse, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de nommer son propre fils dans un gouvernement peut poser un certain nombre de problèmes, a priori, n'est-ce pas ? En principe, le président de la dispose de la prérogative de nommer tous les citoyens de son pays.
Y compris son fils, donc, dit Maître Sim.
Y compris son fils. Oui, y compris son fils. Mais il y a des questions de gouvernance. C'est-à-dire, il y a des choses qu'il ne sera pas capable de faire. Dès lors que son fils, premièrement, est susceptible d'être poursuivi, le président de la République peut tenter de protéger son propre fils. C'est-à-dire qu'il y a des questions éthiques qui peuvent se poser, justement dans le choix de son propre fils à mettre dans un gouvernement. Maintenant, souvent, c'est des tendances qu'on voit en Afrique. Et je vois, ça résulte d'autres choses. Ça résulte des tendances à la conservation du pouvoir. Par un clan ou par une famille. On met le fils justement dans une position d'essai à la gestion du pouvoir et ça remet en cause au moins deux choses.
Donc ça vous voulez dire qu'il y a pour vous le problème n'est pas de nommer son fils, le problème c'est pouvoir trancher en cas d'implication présumée de celui-ci dans certains dossiers judiciaires éventuellement.
Absolument. C'est-à-dire, non, on ne pourrait pas trancher. Le problème, c'est que la question qu'il faut se poser, est-ce qu'on peut trancher contre son fils s'il est justement impliqué sur des questions de mauvaise gestion ? La réponse semble être non. C'est-à-dire qu'on doit s'abstenir justement donc de mettre son fils dans des positions de responsabilité sensibles, surtout à le mettre dans un gouvernement. Maintenant, c'est des choses qu'on voit souvent en Afrique. Et c'est essentiellement lié à des desseins de conservation du pouvoir. On met les fils dans des positions d'essai. En Afrique, il y a ce qu'on appelle la succession par les fils. Donc, ça a essuyé dans certains pays, ça a réussi dans certains pays, mais ça, c'est des réalités. L'exemple congolais, en vérité, je crois, pour nous mener vers ça. C'est un président déjà qui a duré énormément donc, à la présidence de la République. Donc, une démocratie peu désirable. Évidemment, il peut exister véritablement un projet de succession dynastique au niveau du pouvoir congolais.
Merci Monsieur Mbodji. Je vous redonnerai la parole là, tout à l'heure pour conclure vos propos sur ce point. À tout de suite.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Au Sénégal, en Guinée équatoriale ou au Gabon, ou encore plus récemment au Congo, des fils des chefs d'État sont entrés dans le gouvernement. Ils étaient nommés par leur père. Faut-il les écarter du pouvoir ? Nous en débattons ce soir avec Maître Emmanuel Sim, vice-président du MRC, parti d'opposition au Cameroun, Dr Abdulaziz Mbodji, docteur en droit public constitutionnaliste, et Joy Washington Ebina, président de la Fondation Ebina à Brazzaville. Comme promis, Dr Mbodji, alors je vous redonne la parole pour conclure vos propos sur le fait que pour vous le problème c'est d'abord le contexte politique. Est-ce que vous voulez dire que si le Congo d'après vous était dans un environnement démocratique, pour vous le problème de la nomination du fils Sassou au gouvernement n'en serait pas un?
Absolument, parce que indépendamment de la volonté du père, si justement donc, il pose des actes qui sont contraires à la loi, il pourrait être poursuivi. Mais ici, chez nous, il serait difficile que le fils puisse être poursuivi sous le regard de son père, sans aucune obstruction dans la procédure judiciaire.
Ça veut dire que ici, donc pour on vous, va c'est pas l'absolution totale.
Absolument, je dis absolument. C'est-à-dire que nommer son fils à la tête d'un gouvernement est contraire à une gouvernance intègre. Ça, c'est ma conviction. Parce que ça remet en cause au moins deux choses. La possibilité d'une alternance démocratique et la possibilité de la reddition des comptes. Et dans tous les pays où on le voit, il y a soit une tendance justement à une succession dynastique. Parce qu'il y a des intérêts de famille à maintenir.
Merci. Monsieur Ebina ? Allô ?
Oui.
Monsieur Bina,
oui, allô?
Oui, vous, en tout cas, vous nous avez dit que vous n'avez rien contre le fils Sassou, mais ce que vient de dire Dr Mbodi, est-ce que c'est un élément qu'il faut prendre en compte dans l'appréciation de cette nomination? C'est-à-dire que si demain, Christelle Sassou, qui a déjà sur le dos quelques dossiers judiciaires, était soupçonnée d'implication dans d'autres détournements comment pourrait être l'attitude de son père? Est-ce que vous pensez qu'il aura cette capacité, cette distance pour laisser la justice faire son travail?
Il faut se référer par rapport aux anciens dossiers. Ce n'est pas la première fois qu'il y a, aussi bien au Congo-Brazzaville et ailleurs, des membres de la famille qui ont des dossiers qui ne sont pas poursuivis. Donc ce n'est pas quelque chose qui arrive. Mais je tiens à rappeler une chose. Dans le cas de Brazzaville, le fils a été nommé comme ministre de la coopération internationale. Et donc,
et du partenariat public-privé.
Oui, voilà. Mais la coopération internationale nécessite qu'on ait une liberté de côtoyer le milieu des affaires américains, le milieu des affaires européens. Mais comme là-bas déjà il y a des poursuites, ce sera impossible pour lui d'y aller et de défendre des cas du Congo. Donc pour moi, il est fondamental, et ça a été très bien dit, c'est un problème d'éthique. Et c'est un problème d'une réalité africaine qui, malheureusement, en Afrique, lorsque les proches qui sont dans la gestion font des dégâts, ses proches ne sont pas poursuivis, mais il faut rappeler qu'au Congo-Brazzaville, ce dossier n'est pas... Et nous, en tant qu'organisation à la société civile, nous avions demandé un éclaircissement sur la plainte qui a été déposée par Doing Business, par les organisations internationales. Mais au niveau de Brazzaville, nous savons que ce dossier n'aboutira pas. Mais le dossier, les plaintes sont à l'extérieur. Les plaintes sont sur le plan international. Donc c'est sur le plan international où les dossiers seront suivis. Mais avec... quelle facilité de sa part, puisque être en coopération internationale nécessite d'aller donc sur le plan international et négocier pour le Congo. Et
ce mais est-ce que vous pensez dans ce cas-là, comme maître William Bourdon, le fondateur de Sherpa, que cette nomination en fait de Christelle Sassou était une sorte d'abri judiciaire décidé par son père, ce qu'évidemment le porte-parole du gouvernement a rejeté?
Non, je pense que c'est mal connaître la justice internationale. Qu'il soit en fonction ou pas en fonction, les dossiers restent pendants. Ça pose aucun problème sur le plan international. Moi, je pense simplement que c'est peut-être une visibilité par rapport à la personne, mais sur le plan juridique, sur le plan international, ça ne pose aucun problème. Je crois que les poursuites...
Dans sa nomination n'est pas une couverture et ne le protégera pas de...
Moi, je pense que lorsqu'on regarde...
poursuites au niveau international.
Oui, sur le plan international, lorsque vous regardez très bien, sa nomination n'a pas d'influence. Si aujourd'hui la justice américaine se rend compte qu'il y a évidemment des irrégularités, le dossier poursuivra son cours. Donc je pense pas. Moi, j'ai pas l'impression que ça portera une certaine protection. Je pense simplement que, au-delà de toute chose, la transparence sur ces dossiers devra se faire. Coûte que coûte, quelle que soit la durée, il faut plutôt penser à éclaircir ces dossiers qu'à assumer des fonctions. Moi, je pense que c'est dans le cadre de la transparence et dans l'éthique, et ça a été très bien dit par d'autres intervenants, que dans l'éthique même, si vous regardez très bien, il est impossible de sanctionner tout proche de famille, pas simplement un fils. Mais nous, on l'a regardé au Congo-Brazzaville, il y a des détournements de fonds qui se font ici, et les parents ne sont pas poursuivis. Donc, combien de fois un fils?
Merci.
Donc, au-delà de tout ça, il faut pas... Et je tiens à préciser une chose.
Pour terminer, monsieur Ebina, il faut accepter qu'on vous retire la parole quand c'est nécessaire, parce qu'il faut un temps de parole équitable, s'il vous plaît, pour tous les trois participants. J'imagine que chacun de vous a beaucoup de choses à dire. Alors, maître Sim, comment réagissez-vous à l'argument ou à l'inquiétude selon laquelle on peut nommer le fils de ou un proche d'un chef d'État peut ne pas être poursuivi en cas de délit? Vous qui avez défendu que ces fils de chef d'État sont des Camerounais comme les autres ou les Congolais comme les autres et doivent être aussi nommés.
Oui, mais pour moi la question est très simple et la réponse aussi vient de soi. Je dis ceci. Politiquement, sur le plan de l'éthique, il n'est pas bien qu'on nomme son fils. C'est une question d'éthique, de politique, parce que finalement, les citoyens au nom desquels le politique doit agir n'est pas en confiance. C'est ça la question, madame, qui est posée. Le fils de M. Sassou Nguesso, que je ne connais pas par ailleurs, je découvre qu'il existe à l'occasion de sa nomination. Est-ce que le fils Sassou Nguesso pourra être poursuivi en justice et que son père, chef de l'État, n'agisse pas. Je pense que c'est très difficile que son père reste de bras croisés si son fils est incriminé. Même au niveau international, mon Binan, qui est congolais, nous fait entendre que oui, mais finalement, s'il est poursuivi aux États-Unis, son père ne fera rien. Mais ce n'est pas vrai. Au niveau diplomatique, son père est en capacité de donner une influence pour que son fils ne soit pas poursuivi. Son père peut le faire. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on le nomme. Parce que politiquement, ce n'est pas bien. Mais le principe de départ, je ne change pas.
D'accord, dessus. On va parler du cas du Cameroun, votre pays où Franck Biya, la question se pose, est soupçonné par certains de vouloir succéder à son père et d'entrer en politique. Mais en tout cas, il y a un mouvement qui a été lancé en sa faveur, qui le présente déjà comme potentiel candidat à la prochaine présidentielle. Le mouvement citoyen des franquistes pour la paix et l'unité du Cameroun, si jamais il entrait dans le gouvernement, le prochain gouvernement, est-ce que vous considéreriez que cela est normal puisqu'il est camerounais comme n'importe lequel des autres concitoyens, de vos concitoyens?
Ma réponse ne changera jamais. Franck Emmanuel Biya, qui est un jeune frère, est un Camerounais et je pense que s'il est compétent pour assurer les missions pour lesquelles il est nommé, il peut être ministre. La question qui est pourtant pendante et qui inquiète les Africains, c'est est-ce qu'il n'y a pas là, s'il est nommé, une tentative ou alors une préparation de succession dynastique? C'est la question qui est posée.
Et vous, répondez quoi pour le cas du Cameroun? Est-ce que vous pensez que c'est ce qui se prépare?
Absolument, absolument. Je vais être très clair. Le président Paul Biya pense au fond de lui-même que la seule personne en capacité de préserver sa sécurité et sa liberté après son départ du pouvoir, c'est son propre fils. M. Paul Biya est en train de mettre certainement en place un mécanisme de succession dynastique à travers son fils, parce que Paul Biya sait.
Mais c'est un Camerounais comme tous les autres,
absolument,
vous l'avez dit, qu'il
madame,
a le droit d'accord. Non seulement d'entrer au gouvernement, mais aussi même de devenir président de la République.
À condition, madame, à condition que on mette au Cameroun, qu'on mette en place un système électoral transparent, un système électoral qui n'est pas contesté et qui est consensuel. Si demain, le fils de M. Paul Biya est élu
à la régulière, vous accepteriez les résultats?
Madame, je vais aller le féliciter personnellement. Vous comprenez, madame? Le souci, c'est que aujourd'hui, au Cameroun, et c'est le cas au Congo, c'est le cas au Tchad. Il n'y a pas de mécanisme constitutionnel et électoraux transparent, démocratique et objectif qui permette. Voilà, madame. Donc, M. Paul Biya, le sachant avec Elecam, vous nommez les personnes qui utilisent Elecam,
l'organe qui organise les élections au Cameroun. Voilà.
C'est bien qu'il le nomme. Donc, si M. Paul Biya décide que son fils serait président, eh bien, il le sera. Et c'est ça qui nous gêne. Par contre, si M. Paul Biya demain permet que nous mettions en place un système électoral consensuel en ayant entendu tous les Camerounais et que mon jeune frère, que j'aime beaucoup, Franck Emmanuel Biya, est président, eh bien, il sera président. Mais la question, c'est que...
Et vous pourrez même être son ministre et travailler avec lui, vous, émercer l'opposition.
Oui, mais si M. Franck Biya, élu à la régulière, me demande de venir rendre service à mon pays, madame, je le ferai. Je dois le dire,
voilà qui est clair. Merci, maître Sim. On va écouter docteur Mbodji, vous m'entendez?
Oui, je vous entends, madame.
Oui, voilà. Vous, au Sénégal, hein, vous avez eu aussi à connaître la même situation qu'au Congo. On parlait du Gabon tout à l'heure, où le président, l'ancien président Abdoulaye Ouad a nommé son fils. On parlait même de super ministre. Au Sénégal, vous parliez du ministre du ciel et de la terre pour qualifier le nombre de postes ministériels qui lui avaient été confiés. Avec le recul aujourd'hui, qu'est-ce que vous vous dites? Qu'il aurait pu effectivement devenir président de la République comme certains en accusaient son père?
Absolument. C'est le peuple sénégalais qui a mis en échec ce projet-là, avec surtout les manifestations du 23 juin 2011, si le projet de loi avait abouti. Mais Abdoulaye Wade allait être réélu en 2012 et voilà, donc... le boulevard du palais allait être effectivement ouvert pour son fils. Ça c'est une réalité. Il l'avait nommé, il l'a mis en position de ministre, il l'a mis en position politique. Et aujourd'hui aussi, le peuple a raison. Aujourd'hui, c'est son fils qui est chef de son parti. Et même si aujourd'hui, je n'ai plus d'arguments, comment dirais-je, en tout cas, je le critique plus, parce qu'il s'acclimente dans l'opposition, c'est bon. Mais le projet a été, en vérité, mis en échec par le peuple sénégalais. On a bloqué des procédures judiciaires pendant le temps du pouvoir d'Abdoulaye Wade, parce que l'Assemblée nationale avait convoqué le fils pour l'entendre. Mais le président donc s'est opposé à cette procédure-là, c'est relativement à la gestion de.
Et justement, parlant de la distance judiciaire, on se souvient aussi qu'au Sénégal, Macky Sall, alors président de l'Assemblée nationale, avait tenté d'enquêter sur la gestion des fonds sur l'organisation de la conférence islamique pilotée par Karim Wade. D'après le Sénégal, c'est cela qui lui avait coûté son poste à la présidence de l'Assemblée nationale. Donc.
Absolument, ça avait soulevé l'ire du président de la République, Abdoulaye Wade, et ça a été à l'occasion aussi de leur séparation. Voilà, donc la séparation du président Abdoulaye Wade et de son premier ministre Macky Sall. C'est parce que justement, il n'a pas voulu, comme on le disait tout à l'heure, que son fils soit entendu, que son fils soit poursuivi, que la gestion de son fils soit enquêtée. Voilà, donc il est difficile en tout cas de pouvoir...
Une fois de plus le recul, vous vous dites aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut définitivement écarter les fils des chefs d'État des postes nominatifs, quand on sait que pour le cas de Karim Wade par exemple, il avait perdu les élections locales.
Absolument, je pense qu'il faudra consacrer ça, donc rendre impossible, en tout cas l'association de la famille, donc dans la gestion du pouvoir, en tout cas dans des positions donc aussi stratégiques et sensibles, parce qu'on ne pourra pas poursuivre, même dans la procédure, dans l'administration de la justice, il y a ce qu'on appelle donc l'interdiction de la prise à partie, parce qu'une personne ne peut pas juger son ami, son prochain, en vérité, voilà, donc son proche. Donc un président de la République, un ministre ne peut pas donc poursuivre. Il y a des règles, des gestions qui existent, des incompatibilités. Donc il serait incompatible que le président de la République siège en conseil des ministres avec son fils. En cas de mauvaise gestion, en vérité, les conclusions ne seront pas tirées. C'est cela, donc c'est la raison pour laquelle il faut rendre impossible, il faut interdire en vérité ces pratiques-là.
Merci.
Qui en vérité donc découle de démocratie bananière.
Merci docteur Mbodje, et on reviendra tout à l'heure dans quelques petites minutes pour conclure notre débat sur les fils des chefs d'État qui sont nommés.
Africa, le grand rendez-vous avec Liliane Niacha sur Africa Radio.
Dans votre émission, en débat ce soir, les enfants des chefs d'État nommés par leur père et ses conséquences. Et nous en parlons avec Dr Abdulaziz Mbodji, docteur en droit public constitutionnaliste, maître de conférence à l'université Alioune Diop de Bambé au Sénégal, en ligne du Cameroun à Douala, maître Emmanuel Sim, vice-président du parti d'opposition MRC, et Joe Washington Ebina, président de la fondation Ebina à Brazzaville au Congo. Monsieur Ebina, compte tenu de ce que vient de dire le docteur Mbodji, en évoquant le cas du Sénégal et la difficulté qu'avait eu Abdoulaye Wade à laisser qu'une enquête soit diligentée pour la gestion des fonds gérés par son fils dans le cadre d'une conférence internationale, est-ce que vous vous dites qu'il faut définitivement écarter les fils des chefs d'État du cercle de pouvoir ? Ou les maintenir et encadrer cela ?
Non, je crois que la loi ne l'autorise pas pour l'instant. Malheureusement, la loi ne l'autorise pas. Donc, il faudrait plutôt souhaiter que sur le plan d'éthique, l'on le respecte. Mais tout à l'heure, il y a un point qui a été évoqué. Vous savez, le dossier du fils Obiang, malgré qu'il soit vice-président dans son pays, il y a eu quand même un dossier de bien mal acquis qui ont suivi, malgré la protection diplomatique.
Et il a été condamné ici en France.
Mais en ce qui concerne les lois. Oui, en France, exactement. Donc, malgré qu'il y ait une protection diplomatique. Ce que je voudrais préciser, c'est que on le souhaite pour une transparence. Il y a assez d'intelligence en Afrique, il y a assez d'intelligence dans nos pays. Je pense que je souhaiterais plutôt qu'il y ait pas seulement les fils, mais qu'il y ait moins d'intégration de la famille, des proches au niveau de la gestion publique. Mais la loi ne l'autorise pas aujourd'hui, mais c'est vrai qu'il faudrait plutôt commencer à réfléchir comment les peuples africains peuvent commencer à s'opposer lorsqu'il y a trop de proches. Parce que vous avez remarqué, mais aucun pays africain prend, aucun pays essaie de prendre des dispositions à ce sujet-là. Nous retombons dans les mêmes erreurs. Chaque pays.
Mais ceci dit, il y a aussi deux éléments que je voudrais peut-être ajouter. Il y a ces fils de chefs d'État ou ces filles de chefs d'État sont souvent très bien formés. Ils font des bonnes études. Et il y a aussi que aux États-Unis, on a vu même sous Trump que sa fille et son gendre étaient à ses côtés à la Maison Blanche.
Mais madame, la bonne formation ne justifie pas la bonne gestion. Le président Lula au Brésil n'a pas eu la grande formation extraordinaire. Les Valéza au Pologne n'a pas eu la grande formation extraordinaire. Ce n'est pas la bonne formation qui détermine. Au contraire, c'est ceux qui sont plutôt qui sont des grandes écoles qui entraînent des grandes magouilles. Ce n'est pas un critère aujourd'hui, madame. Le vrai critère au Congo-Brazzaville, c'est que les retraités qui n'ont pas de pension, qui reçoivent leur pension, quelle que soit la compétence de ceux qui ont la connaissance à la tête de l'État. Rétablir l'électricité au Congo, ça ne demande pas des grandes études, mais malheureusement, ceux qui ont des grandes études ne trouvent pas des solutions.
Merci.
Donc ce n'est pas un problème à ce niveau-là.
Merci, monsieur Ebina. Maître Sim, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? Faut-il accepter que ces présidents nomment leur fils et qu'on trouve des mécanismes pour surveiller leur gestion, comme le sujet, monsieur Ebina ?
Oui, absolument, je pense que la raison. Madame, nous avons un droit ordinaire, je suis avocat, je peux vous le dire, ce que nous appelons le conflit d'intérêts. Il faut peut-être que si un chef d'État nomme son fils ministre, que le Sénat, dans les pays où le Sénat existe, ou l'Assemblée vérifie s'il n'y a pas un risque de conflit d'intérêts entre la fonction du ministre et celle du président pour son père. Je pense qu'il faut vérifier parce qu'effectivement, il peut arriver que la nomination d'un proche, pas seulement un fils, d'un cousin, d'une femme, d'une amie, à un poste important, soit constitutive d'un conflit d'intérêts. Et à ce moment-là, je pense que l'Assemblée nationale ou le Sénat peut auditionner ou faire une enquête pour s'assurer qu'il n'y aura pas de conflit d'intérêts. S'il n'y en a pas, je dis on pourrait. Par contre, je reste ferme dessus, à la tête de la République, à la tête de l'État, si c'est par élection, si le peuple décide de désigner comme président le fils d'un chef de l'État qui était là avant, ça me gêne pas.
Merci.
Mais comme ministre, je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait des mécanismes, effectivement, à l'Assemblée ou au Sénat, de vérifier s'il n'y a pas éventuellement un conflit d'intérêts entre la fonction ministérielle du fils et la fonction présidentielle du père.
Merci, Maître Sim. Docteur Mbodji, c'est vrai qu'on parle beaucoup de fils de chef d'État. Hein. On dirait que le pouvoir est très masculin, en dehors du Gabon, avec Pascaline Bongo, qui a été nommée aux affaires étrangères par son père. On parle davantage, que ce soit au Niger, même si le fils Issoufou a été nommé par son successeur. Mais aujourd'hui, pour vous, quelle est finalement la solution face à ce constat qui se multiplie dans plusieurs pays africains?
Je crois qu'il faut, au-delà de la nécessité de renforcer notre démocratie et nos états de droit, il faudra donc instituer des incompatibilités entre la fonction de président de la République et un certain nombre de positions de la famille proche du président de la République.
Ça, c'est pour les postes nominatifs, il le faut aussi pour les postes électifs. Parce qu'on a vu au Mali, par exemple, le fils Keïta, qui a été député et président de la Commission des Affaires étrangères et de la Défense, cela aussi fait problème.
Vous savez, quand on dit les incompatibles, ça veut dire des positions sensibles. C'est-à-dire que là, c'est le législateur qui va dire, donc des positions où il est susceptible de gérer des budgets à telle hauteur. N'est-ce pas ? Des positions où il peut influencer en vérité l'action publique.
Oui, mais pour vous, en deux mots, est-ce qu'il faut que cela soit fait pour les postes électifs ?
On peut être maire, on peut être fils du président, aller briguer, ou bien alors donc neveu du président, aller briguer une municipalité.
Mais là aussi, il y a un budget à gérer.
Oui, mais là c'est les citoyens qui choisissent. C'est-à-dire que là, tu te confrontes au suffrage universel. Tu vas dans une commune, alors donc se battre pour devenir maire. Maintenant, si les citoyens de cette commune-là vous choisissent comme maire, mais ce n'est pas contraire à la démocratie. Mais le fait que votre propre père, bon, qui justement dirait peut être même très mal élu, vous choisit encore et vous met dans une position stratégique où vous êtes susceptible de gérer énormément d'argent et que s'il y a véritablement des couacs, la justice ne pourra pas être mise en branle, là ça pose problème. Je crois qu'il faudra consacrer des incompatibles pour un certain nombre de positions. Maintenant, pour les positions électives, je pense que oui, je pense que ça peut être très ouvert à tout le monde et que c'est le peuple qui choisit.
Merci beaucoup, Dr. Abdulaziz Mbodji, docteur en droit public constitutionnaliste, maître de conférence à l'Université Alioune Diop de Bambé au Sénégal. Vous étiez en ligne de Dakar. Merci, maître Emmanuel Sim, vice-président du parti d'opposition camerounais MRC, de l'opposant Maurice Kamto. Merci à vous, Joe Washington Ebina, président de la Fondation Ebina à Brazzaville au Congo. Merci de nous avoir prêté votre temps pour débattre de la nomination des fils des chefs d'État africains par leur père. Merci de retrouver cette émission bientôt en podcast sur africaradio.com. Merci à Hugo Vallière et à Edouard Nying qui m'ont aidé à vous proposer cette émission. Bonsoir.